Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec ma chère Olivia de Lamberterie, duel, Arnaud Vivian de Regard et de Transfuge, Frédéric Becbédé du Sud-Ouest évidemment et du Figaro Magazine et avec notre cher Jean-Louis Hézine qui représente fièrement le chasse-marée à cette tribune pour parler ce soir des nouveaux romans de Stephen King, François-Henri Désérable, du Turc Ahmet Altan, mais aussi des écrits intimes et posthumes et féroces de Patricia Highsmith ainsi que des visites aux grands écrivains. Et je suis ravi d'accueillir ce soir dans le public au théâtre de l'Alliance française Chineria, Nora et Rambinson, qui sont trois élèves du lycée des Îles sous le vent à Raiatea en Polynésie française, et leur professeur Sabine, qui ont fait le voyage pour venir jusqu'au théâtre de l'Alliance française. Bienvenue à vous quatre, ainsi que des élèves en master spécialisé média de l'ESCP Business School de Paris. Voilà pour les invités de ce théâtre. Dans le courrier de la semaine, Amaury Mesclon remercie Frédéric Becbédé pour sa recommandation du Voyant des Tempes d'Abel Quentin, un vibrant plaidoyer pour l'universalisme humaniste et qui a reçu le prix de Flore. Il va falloir, ajoute Arnaud Sanquer, compter avec Abel Quentin, dont le deuxième roman est aussi brillant dans le style que le constat qu'il pose sur l'époque. Selon moi, le tour de force de cette rentrée littéraire. J'ai été très impressionné, ajoute Christian Guillot de Ronchin, près de Lille, qu'un écrivain trentenaire ait un regard aussi pertinent sur l'évolution des mentalités et des codes depuis les années 50. Il y a que Jean-Pierre de Nantes qui est moins enthousiaste, et c'est un euphémisme. J'ai trouvé ce Voyant des Tempes ennuyeux, désincarné, écrit avec le dictionnaire des synonymes. Ce livre d'une superficialité accablante veut saisir l'air du temps, mais saisit seulement la surface des choses. Abel Quentin est une pâle copie de Houellebecq. Voilà, il fallait bien un avis discordant. Et puis aux femmes, dont Olivia, qui trouve qu'on ne lit pas assez de scènes d'accouchement dans les romans. Jean-Charles Khalifa recommande celle époustouflante à la toute fin du roman de Jonathan Miles, « Tu ne désireras pas », paru aux éditions Monsieur Toussaint Louverture et traduit par mes soins, c'est-à-dire par Monsieur Khalifa. Cela ne se passe pas dans les toilettes d'un dortoir d'université à New York et l'accouchée est en déni total de grossesse. Elles m'en diront des nouvelles. Donc, tu vas lire ce livre de Jonathan Miles. Enfin, à propos des Flammes de pierre de Jean-Christophe Ruffin, dont on parlait il y a 15 jours, Grégoire Zimmermann, qui nous écoute depuis le pays des montagnes, la Suisse, a été atterré par la vision stéréotypée qu'ont les critiques du masque de l'univers alpin et de sa littérature. Et je vous conseille aux éditions Guérin-Paulsen, Au milieu de l'été, un invincible hiver de Virginie Troussier. Il donne à ressentir ce que des hommes vaillants éprouvent lors d'une ascension tragique. Pascal Ingrecker de Genève conseille pour sa part Sur la trace de Nive chez Gallimard, d'Éry de Luca et aussi de Paolo Cognetti chez Stock, Huit montagnes. Jean-Christophe Ruffin n'est sûrement pas le meilleur, mais un tel mépris des critiques pour la montagne, c'est terrible. Et Bertrand nous écrit, alors lui c'est un peu différent, il nous dit « Bon, Ruffin c'est chiant, mais c'est la montagne qui morfle. C'est pas faux. Au contraire, pour Jean-Pierre Rouchet, la justesse de ton de Ruffin, dans sa relation à la montagne par la voix de ses personnages, a échappé aux trois critiques plus familiers, Arnaud, du bitume parisien que de l'esthétisme des aiguilles de Chamonix. Heureusement, Olivia a évité avec courage le dévissage dans les abîmes des Flammes de pierre. » Voilà, rien à ajouter, j'imagine, hein, sur Ruffin. Le dernier mot, c'est pour Frédéric. Aïe. C'est Saïd Ilias qui nous écrit, mais moi, je suis pas à même de juger. Mm-hmm. J'étais en train de dîner et de vous écouter, comme tous les dimanches soirs, lorsque Monsieur Becbédé a attribué Satisfaction aux Rolling Stones. J'ai failli avaler de travers. C'est une composition du très grand bluesman John Lee Hooker. Les Stones en ont simplement fait une reprise.
Non, non, c'est faux. Non,
c'est faux?
Non, c'est faux.
Bah, c'est faux.
C'est signé Jagger Richards.
Hein, oui, oui, bien sûr.
Alors voilà, mais je lis toujours le courrier quand il y a des...
Non, ils ont repris beaucoup de morceaux de blues, et notamment John Lee Hooker, sûrement. Mais enfin, pas Satisfaction.
En tout cas, on écoute Le Masque et la Plume, et on va commencer avec un livre qui s'appelle Après, titre lapidaire, du nouveau roman de Stephen King, traduit par Marina Borazzo chez Albin Michel. Jamie a 6 ans, il a aussi le pouvoir de parler avec les morts, du moins pendant les jours qui suivent leur disparition, une faculté de médium dont va vouloir profiter une inspectrice de la police de New York, par ailleurs lesbienne et droguée. Elle demande son aide au petit garçon pour l'aider à traquer un tueur qui menace de frapper, tenez-vous bien, depuis sa tombe. Est-ce que le roi King vous a séduit, Arnaud ?
Ah, c'est un petit Stephen King dans la taille, hein, par rapport au précédent qui faisait 800 pages que j'avais lu. Celui-ci est beaucoup plus drôle. Il est dans sa veine satirique, comique, parce que c'est quand même surtout une parodie de la littérature américaine commerciale. Le personnage de la mère est donc est agent littéraire. Elle a fait fortune avec un écrivain qui écrit une saga médiévale bourrée de sexe. On pense évidemment à Game of Thrones. Et c'est parce qu'il meurt avant d'avoir terminé sa saga que tout le dispositif se met en place avec l'enfant. Bon, on retrouve vraiment ce que fait le mieux Stephen King, c'est ses personnages d'enfants, de pré-ados, c'est-à-dire qu'ils vont de désillusion en désillusion, ces enfants, ils sont en train de devenir adultes et de découvrir la perfidie des adultes. C'est ça qui est remarquable, et la fin est absolument remarquable. Absolument génial.
Mais on ne la raconte pas, je te Mais rappelle.
Évidemment, hein, qu'on ne la raconte pas. Ça se lit. Moi, j'ai lu ça en une courte nuit. Franchement, une fois qu'on a commencé. Et encore,
c'est. Oui, parce qu'il a rarement fait aussi bref. Hein.
Oui, il a rarement fait aussi bref. Et il a, comment dire, il a rarement été aussi parodique, je trouve. Il y a un moment, il dit. Le narrateur dit, donc c'est ce petit garçon, on dit, évidemment je suis pas un écrivain très talentueux, mais je vais quand même essayer de décrire la scène. Et là, évidemment, voilà, c'est tout le dispositif de Stephen King. Il y a oui, c'est au second degré, c'est un Stephen King au second degré, beaucoup plus drôle qu'effrayant, et à mon avis assez remarquable.
Olivia ?
Moi j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est effrayant aussi, parce que ce qui est très fort dans ce livre, c'est que le fantastique surgit, mais dans un décor extrêmement réaliste. Donc tu peux vraiment croire, moi j'ai vraiment cru à ce petit garçon qui voyait les morts. Le dispositif, la première fois qu'il réalise vraiment qu'il voit un mort, il rentre de l'école, il a un dessin à la main, il est très fier de son dessin de Thanksgiving, et dans le couloir, il voit tout de suite qu'il y a un truc qui va pas parce que le voisin, qui est un vieux monsieur, est en train de fumer, ce qui est absolument interdit. Et puis il voit, lui, qu'il y a la femme du voisin qui est là. Mais très vite, il va s'apercevoir que personne ne voit la femme du voisin puisqu'elle est morte. Et je trouve que le dispositif romanesque fait en sorte que vous-même, vous croyez totalement à ce truc qui... Enfin, en tous les cas, je ne connais personne qui voit les morts.
Bah, surtout à 6 ans.
Et après, ça devient... Ou à 6 ans, ou à 30.
Oui, bah, enfin, déjà.
Et après, il y a un autre effet romanesque, un rebondissement que je ne vous dirai pas, mais qui, je trouve, est assez effrayant. Parce que... En gros, non seulement il voit les morts, mais les morts veulent plus le laisser tranquille.
Après, un mort décide de ne plus le
voilà,
laisser tranquille.
Après, c'est un peu écrit à la va que je te pousse. Hein.
Bah, mais c'est ce qui est bien.
Bah, toujours chez King, ouais. Hein, c'est jamais.
Oui, mais alors celui-là, il s'est pas beaucoup donné de mal. Alors comme c'est écrit par un tout jeune homme, c'est pas très grave.
Voilà, c'est ça, c'est un peu exprès.
C'est
un enfant de 6 ans qui raconte l'histoire.
T'arrives pas à savoir si c'est exprès, pas exprès, mais bon. Allez-y, c'est très amusant et très efficace.
Frédéric ?
Il nous avait déjà fait le coup plusieurs fois, puisqu'il y avait déjà ça dans Carrie, dans Shining. Donc le petit enfant extra-lucide, c'est un peu son truc, mais bon, voilà, on avait un peu l'impression de déjà-vu quand
même. Pas aussi loin que là. Hein.
Mais et à un moment, d'ailleurs, il se justifie, il dit « Rien de commun avec le film Sixième Sens ». Tu parles, c'est exactement la même idée que dans le film Sixième Sens.
C'est là où il est drôle, c'est là où il est vraiment tout le temps au second degré.
Oui, enfin voilà, il a repris une idée qui existait chez lui et qui existait ailleurs. Mais c'est vrai qu'il le fait plutôt bien, et je trouve amusant le côté, comme tu dis, pastiche d'un peu de Salinger, puisque c'est la voix d'un enfant, donc il y a de l'argot, il y a des gros mots. D'ailleurs, il le dit lui-même, il dit « Ma vie était digne d'un roman de Dickens, les gros mots en plus », ce qui est un hommage à la première phrase de l'attrape-cœur, vous savez, où il disait « Je vais pas vous raconter toutes ces salades à la David Copperfield ». Donc il y a des hommages constants, non seulement à la littérature, mais au cinéma aussi.
Et au rock aussi, puisqu'il parle à un moment du groupe Tumbuktu.
Ouais,
ouais. Alors ça, un enfant de 6 ans aujourd'hui ne le connaît pas.
Non, c'est un peu. Il y a des trucs comme ça. Puis c'est en gros la bonne idée, je pense. C'est pas l'idée qui voit et parle aux morts.
C'est quand même l'idée principale.
C'est l'idée principale. Mais oui, mais non, mais c'est que les morts, ils sont parfois très effrayants parce qu'ils ont eu un accident. Par exemple, il y a un cycliste dans Central Park qui a le crâne fendu en deux avec les os qui sortent par un trou béant. Donc l'enfant de 6 ans, il n'a pas envie de les voir, les morts. Il est terrorisé, il a peur à chaque fois qu'il voit un accident. Il se dit, merde, je vais encore voir un mort, ça va être encore épouvantable. On imagine déjà ce que ça pourrait donner au cinéma.
Oui, par Cronenberg. Jean-Louis, c'est un monde que tu connais pas tellement, celui de Stephen King.
Ah, si, très bien. Tu nous l'infliges régulièrement, donc tu es obligé de suivre. Son côté psychopompe, sudoripare, halloweenien, tout ça, je connais par cœur. Ouais. En revanche, alors, je suis pas comme vous. Même dans la brièveté, je trouve qu'il est long. Il est long.
Le précédent, 800 pages, j'avais rien compris.
Vous avez vu un côté parodique du commercial. Moi, j'ai bien vu le côté commercial, mais pas le côté parodique. Donc, j'ai fait une lecture au premier degré. Bon, c'est un écrivain important. Il a un équipage important à entretenir avec ses 3 maisons, ses 2 stations de radio et ses nombreux Harley Davidson. C'est vraiment un écrivain qui a une grosse empreinte carbone.
Comment tu sais qu'il a 3 maisons?
Parce que c'est écrit dans Wikipédia.
Et ça, c'est une preuve.
Oui, ça, c'est... Je pense que c'est... Hein, voilà. Alors, mais cela dit, vous avez raison, faut pas dire du mal des petits écrivains, parce qu'ils nous permettent de juger de la distance, parfois très subtile, qui les sépare des grands. T'as cité Proust tout à l'heure en disant « King n'est pas Proust ». Je suis d'accord, et je le prouve. Par exemple, « Longtemps je me suis couché de bonheur », c'est Marcel Proust. Tandis que « Je suis retourné dans mon lit, mais le sommeil a mis très longtemps à venir ». Ça, c'est Stephen King, à la page 162. Tu vois que je l'ai lu.
Bon, tu n'as rien à ajouter.
Ah, si, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est la seule chose où j'ai un peu... C'est un proverbe chinois qu'il cite, il n'est même pas de lui, donc du coup, c'est... Celui qui attrape un tigre par la queue n'a pas intérêt à le lâcher. Ça, c'est bien aimé.
C'est un proverbe qui peut être utile dans la
ça
vie.
Peut, ça oui, peut ça être peut utile, servir. Oui. Faut y
après, Stephen King, c'est chez Albin Michel. Mon maître et mon vainqueur, ça vous dit quelque chose, j'imagine. C'est chez Gallimard et c'est ce qui a valu au jeune François-Henri Désérable, 34 ans, on le disait la fois dernière, ancien hockeyeur sur glace professionnel, le grand prix du roman cette année de l'Académie française. Un roman plein de trompe-l'œil, de choses trappes, de coq à l'âne, qui revisite la vieille figure du triangle amoureux. Alors, il y a Vasco, qui est un jeune conservateur de la Bibliothèque nationale de France, qui tombe raide dingue d'une jeune comédienne, Tina, qui incarne Verlaine, je dis bien Verlaine, au théâtre. Tina succombe au charme de Vasco. Seulement voilà, Tina est mère de jumeaux et elle s'apprête à épouser leur père, Edgar. Tina, donc, va essayer de se dédoubler jusqu'au moment, évidemment, où Edgar découvre que sa belle le trompe. Je ne raconterai pas l'épilogue, mais sachez que le revolver à 6 coups avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud va jouer un rôle important. Sachez aussi que dans ce roman, vous trouverez des photos, je dis bien des photos, des épreuves, des fleurs du mal corrigées par Baudelaire, de Verlaine attablé, toujours lui, au café devant une absinthe, et du buste de Voltaire exposé rue de Richelieu, buste qui contient, comme vous le savez, son cœur. J'ajoute enfin que le juge chargé de cette affaire assez complexe est celui d'article 353 du Code pénal de Tanguy Vielle. Tanguy Vielle a prêté son juge à François-Henri Désérable et l'a muté en même temps de Brest à Paris. Ouais. Frédéric.
C'est adroit, malin, fin, souvent brillant, mais j'ai trouvé aussi un peu vain. Et je me suis dit que ça méritait d'avoir le prix de l'Académie, parce que c'était assez académique. C'est un jeune auteur, pourtant, et peut-être un peu surestimé, ou en tout cas, qui écrit un peu comme un vieux, quoi. Ce triangle amoureux dont tu parles est raconté par un quatrième personnage, à un juge, mais on n'y croit pas. Il parle, par exemple, il décrit des scènes de baise. Je pense pas que tu fais ça dans le bureau d'un juge, je crois pas.
Donc, c'est un juge assez cool, hein. Il filme en recevant.
Oui, enfin, je sais, comment dire. J'ai eu l'impression de lire une comédie romantique, un peu. Alors, parfois, dans les comédies romantiques, t'as quelques scènes, amusante, et puis quelquefois c'est un peu banal. Là, je suis désolé, la fille, Tina, qui récite le bateau ivre, qui chante faux du Johnny, qui est fantasque, qui rit très fort, et puis qui pleure beaucoup. T'as l'impression de l'avoir déjà vu chez Alexandre Jardin, cette nana-là. C'est un petit peu clicheton, quoi, par moment. Et puis à d'autres moments, c'est vrai, quand il la drague à la Bibliothèque Nationale de France, en lui faisant lire les originaux de Baudelaire et de Verlaine,
Il y a la Bible de Gutenberg.
Qu'il prend avec des gants blancs.
Oui. Voilà. Il faut faire attention à ne pas l'abîmer en faisant des choses sur cette table. Non, voilà. Alors, les joueurs de hockey, c'est des gens qui doivent être fluides, qui doivent danser sur la glace. Et en même temps, c'est un sport un peu.
Aussi, hein.
Oui, mais voilà. C'est un sport un peu bourrin aussi. Donc, il y a un peu de ces deux choses-là, je crois.
Un sport bourrin.
Qui sont compliqués à se concilier.
Jean-Louis.
Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien sa façon de faire écho, d'abord, à ce qu'on appelle la vie littéraire.
Oui, puis il y a plein de références.
Je me souviens encore de un certain monsieur Piquelny, voilà, où il faisait référence à Romain Gary. Enfin, j'aime beaucoup sa façon d'aimer la littérature à travers ses belles histoires. Et j'aime aussi la façon dont il y fait écho.
Enfin, citer Rimbaud et Verlaine en draguant une meuf, c'est un peu,
non, mais
c'est un peu scolaire, quoi.
C'est mignon. Ce sont deux femmes qui jouent Verlaine et Rimbaud au théâtre.
Oui, c'est ça.
C'est plus.
Moi, je trouve qu'il montre bien que toute passion amoureuse, finalement, est une fabrication littéraire. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai retenu un peu la leçon du roman. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi la façon très à la fois élégante et subtile, parce que c'est une tragédie quand même, cette histoire-là qu'il nous raconte, dont il la traite avec humour.
C'est une tragédie dont la fin qu'on ne va pas raconter est plutôt du grand guignol qu'une fin de
mais
tragédie.
J'aime bien cet humour. Je trouve que d'ailleurs cet humour n'est pas du tout. Bergson disait que c'était le rire, c'était du vivant plaqué. Enfin, c'est pas plaqué du tout. Je trouve que c'est dans la façon dont Désérable en joue, c'est. Ça passe merveilleusement bien. Je le lis avec beaucoup de plaisir.
Olivia.
Désérable est, me semble-t-il, l'écrivain le plus doué de sa génération. Je ne suis absolument pas du tout d'accord avec toi quand tu dis qu'il écrit comme Alexandre Jardin.
Mais non,
je trouve qu'il écrit de manière.
C'est à cause des images.
Très à l'aise.
C'est à cause des images.
J'ai dit la créature fantasque, on dirait Fanfan, quoi. Tu vois,
non,
la fille.
Non, alors
elle
pas
pleure
du tout
tout le temps, elle rit tout le temps.
Oh, la fille, elle pleure tout le temps. Attention, toi. En plus.
C'est de la fiction.
Tina, le personnage féminin, est très réussi. Moi, je trouve qu'elle n'a rien à voir.
Elle est même assez émouvante, je trouve.
Elle est émouvante, elle est fantasque, elle a vraiment de la chair. Je trouve que c'est un très beau personnage de roman. Et incontestablement, il est très alerte, il a à chaque roman une sorte d'ambition littéraire différente. Après, je reste un tout petit peu Frédéric, pas tout à fait convaincue.
Tu vois que t'es d'accord, au fond.
Mais pas pour la même raison que toi. Parce que je trouve que c'est un vrai écrivain.
C'est ce que je dis.
Il écrit très bien.
Mais je suis d'accord. Mauvaise, écoute.
Je suis d'accord.
Histoire,
il a rien à raconter.
On s'en fout complètement.
Exactement. Bah alors, Olivia, viens m'embrasser.
Alors ça, on peut le dire de
tout ça
romans,
pour en arriver là.
Oui, bien sûr qu'on peut le dire.
Ce qui nous intéresse, c'est la littérature.
Je me souviens
du
professeur de la Sorbonne, Monsieur Molinier, en stylistique, qui disait la littérature n'est qu'une immense exposition de je t'aime moi non plus.
Voilà.
Il a raison. Mais là. J'aime bien cette histoire d'amour, mais sauf qu'elle est emballée d'une sorte de vernis de littérature. Pourquoi mettre...
Pourquoi tu te fatigues à faire semblant de ne pas être d'accord avec moi alors que tu l'es?
Non, parce que c'est pas tout... C'est un peu le syndrome, tu sais, le syndrome, une Ferrari, mais pour aller où?
C'est un peu ça. Oui, c'est très brillant
et très doué.
Et très vain.
C'est un problème que tu as, ça? Non. Rassure-moi.
J'ai pas de permis, personnellement, donc je ne vais nulle part. Mais, bon, je lirai le prochain avec grand plaisir, parce que vraiment... Il écrit bien. Il n'était pas obligé de mettre tant de strates littéraires, cette espèce de mise en abîme avec le juge. On s'en fiche un peu.
Bon, je sens qu'Arnaud va être comme Frédéric, bien sûr.
Ah oui, totalement. Ouais, voilà. J'ai trouvé ça vieux, un peu putassier quand même, dans son cette utilisation.
Mais c'est pas vieux,
vraiment, il y a un côté, la poésie, l'utilisation de la poésie, elle est prise en otage dans cette histoire dont on a strictement mais rien à faire, rien à faire.
Il y a de très beaux sonnets.
Vraiment, du fédo complètement...
Il n'aime pas la poésie.
Arriéré. Non mais... Utiliser Baudelaire, la scène de baise à la BNF, là, avec les incunables, ça dit tout. De l'utilisation complètement, la poésie devient un accessoire. Il y a plein de vers de Mirliton, des détournements.
La vente aux enchères, la vente aux enchères du revolver de Verlaine est formidablement bien racontée. Mais bon,
ça veut dire quoi, bien raconté? Non. Il y a, effectivement, ce roman va nulle part, ne sert strictement à rien. Et en plus, il est écrit de manière vieille.
Ah non. C'est ça, il est écrit de manière brillante.
Oui.
Avec
mais brillant,
de
c'est souvent vieux.
Mon maître et mon vainqueur, c'est chez Gallimard et c'est signé François-Henri Désérable. Madame Hayat, traduit chez Actes Sud par Julien Lapère de Cabane. C'est le roman du Turc Ahmet Altan qui a reçu cette année le prix Femina étranger. Je rappelle qu'Ahmet Altan, rédacteur en chef du journal Taraf, a passé 4 années en prison. Et le héros et narrateur de son roman s'appelle Fazil. Après la mort de son père, qui était un homme d'affaires riche, qui avait fait fortune dans la tomate et qui a été ruiné du jour au lendemain, Fazil, qui est étudiant en lettres, trouve à se loger dans une petite pension de famille et un emploi de figurant à la télé, où il doit et il va applaudir des chanteuses plantureuses au décolleté, je le cite, vertigineux. Et c'est là qu'il rencontre dans le public de l'émission une femme dont il tombe amoureux, qui est la Madame Hayat du titre. Ce qui ne l'empêche pas d'être séduit par une étudiante, Sylva, dont La promenade au phare de Virginia Woolf est le livre de chevet. Arnaud.
Alors là, pour le coup, brillant, magnifique, classique, certes, mais en même temps avec une... Parce que l'arrière-plan aussi, c'est la Turquie d'aujourd'hui. Hein, c'est ces intellectuels qui sont emprisonnés.
Que connaît bien Monsieur Altan.
Il a écrit ce livre en prison.
Il a écrit ce livre en prison. Et ce qui est magnifique, c'est justement la beauté qui se dégage de ce livre, alors qu'il a été écrit en prison. Il y a une évidente métaphore entre cette femme âgée dont tombe amoureux ce jeune étudiant en littérature. Là, pour le coup, la littérature est très très bien utilisée. Hein, c'est magnifique. Et évidemment, cette jeune étudiante en littérature, elle aussi, dont il tombe aussi amoureux, c'est les deux visages de la Turquie, finalement. Hein. Il y avait la joie de vivre, une liberté, une naissance, là, qui est représentée par Madame Hayat, et puis l'envie de fuir, qui est représentée par la jeune étudiante, et lui, qui est pris entre ces deux désirs, ces deux ambitions charnelles, si on veut. Et vraiment, il y a c'est très court, c'est très bref, il y a quelque chose de ciselé et de poignant dans un classicisme là le plus, c'est l'inverse pour moi de Désérable. Là, soudainement, on voit quelqu'un qui, c'est pareil, il n'y a pas un effort d'imagination extraordinaire, on est dans des ressorts extrêmement classiques et pourtant ça vous prend aux tripes, il y a la beauté éclate avec une simplicité, une justesse permanente. Moi je dis bravo.
Jean-Louis.
Ben, y a un passage qui, pour moi, a résumé tout le livre. C'est à un moment, l'écrivain se souvient visiblement d'avoir vu le film de Bergman, « Sonate d'automne », où un personnage dit, à propos d'un prélude de Chopin, « Il y a certaines parties qu'il faut savoir mal jouer ». D'ailleurs, à partir de ce souvenir, Altan écrit quelques pages, justement, sur l'imperfection, mais en littérature. Les romans de Dostoïevski qui sont très mal foutus, comme on sait tous. Et je dirais que le sien participe un peu de cette confusion, mais de manière, en effet, tout à fait bouleversante. Parce que dans ses 4 ans de prison, il a visiblement voulu ramasser tout ce que la littérature évoquait pour lui. Donc c'est aussi une espèce de bibliothèque, là. C'est pas un foutoir, mais par exemple, l'indécision du personnage entre ces deux femmes...
Que tout oppose, en plus.
Que tout oppose. C'est aussi l'indécision de l'auteur entre deux romans possibles. Mais il les prend parce que la littérature, c'est la liberté. Il faut pouvoir tout dire. Donc il y a ce côté qui m'a vraiment bouleversé. de vouloir tout ramasser, ses références, oui, se souvenir d'avoir lu tel auteur, en parler, etc., d'avoir vu tel film. Ça, j'ai vraiment adoré. C'est avec de l'imperfection, c'est le chef-d'œuvre, si on peut dire.
Olivia.
De l'imperfection.
Mais moi, je ne vois pas tellement d'imperfection. Je trouve que c'est un livre splendide qui, au-delà de l'histoire d'amour, pose la question, comment est-ce qu'on peut continuer de vivre dans un pays autoritaire et soumis à l'arbitraire? Comment est-ce qu'on peut continuer de vivre quand, sans arrêt, on peut tout perdre? Son argent, son travail, sa réputation, et qu'on peut être roué de coups sans aucune explication.
Ce que beaucoup d'écrivains turcs et écrivains journalistes turcs ont connu.
Et lui, il a quand même passé 4 ans et 7 mois en prison dans des conditions qu'on ose à peine imaginer, et il écrit ce livre. Moi, rien que ça, ça me donne envie de pleurer. Et après, on voit comment chaque personnage va trouver une solution pour continuer de vivre. Alors effectivement, le jeune héros, il se réfugie dans la littérature. Il a tout perdu, puisque sa famille a tout perdu. Et Ahmet Altan dit que c'est un bébé tortue sans carapace. Donc c'est effectivement un jeune garçon qui n'a plus du tout de repères. Et il y a cette femme, mais extraordinaire. On peut un tout petit peu penser à Mrs. Robinson, mais elle est tellement plus élégante. Parce qu'il n'y a aucune psychologie, on ne sait pas d'où elle vient,
on
ne connaît pas son histoire.
Et là, il arrive à la faire exister, mais alors...
Rien que par la manière dont elle met sa petite tenue pour émoustiller le jeune garçon. Elle est la plus belle femme de toute l'année en littérature.
Je suis d'accord.
Je vois pas de mieux. Et c'est vrai que c'est dans une grande simplicité parce que à la fin, tout d'un coup, le jeune garçon, je vous dirai pas la fin, mais la fin, vous avez envie d'embrasser l'auteur tellement la fin est géniale. Parce que il y a quand même donc une sorte d'hésitation. Est-ce qu'il va partir avec la jeune fille ou est-ce qu'il va partir
est-ce
avec...
Est-ce qu'il va résister aussi? Parce qu'il est en train d'opérer un mouvement de résistance.
Et la fin est vraiment sublime. Et tout d'un coup, il y a une petite phrase. Il se dit si il devait vivre sans cette femme, la vie serait un désert. Juste là, mais vous pleurez de beauté. Et tout est beau parce qu'il a installé ce jeune homme dans un immeuble avec des gens qui ont été chassés d'un peu partout. Vous avez le personnage d'un dissident, vous avez un enfant qu'on essaye de protéger du climat délétère, un travesti. Chaque ligne de ce livre est splendide.
Avec des allégories innombrables sur la situation actuelle.
Et en même temps, rien n'est dit. C'est le contraire du livre lourdeau à message contre la dictature possible.
Absolument.
Et je rappelle quand même le traducteur qui est excellent, qui est Julien Lapierre de Cabane, qui a fait une traduction absolument parfaite.
Bon, je suis Frédéric. Entièrement d'accord avec vous trois, entièrement d'accord.
Tu n'as pas le choix, tu aurais dit le contraire.
Mais surtout, je voudrais dire, moi je ne savais pas qu'il avait été écrit en prison, le livre. Je savais que Ahmet Altan avait été en détention, mais je ne savais pas qu'il l'avait écrit. Et c'est vrai que c'est une tentative d'évasion réussie, par le désir, par le plaisir, par la littérature,
la
beauté.
Au fond, la prison pour les écrivains, c'est vachement bien.
Verlaine
a écrit ses plus beaux poèmes
bien sûr.
En prison.
Oscar Wilde.
Le ciel est par-dessus le toit.
Et des profondes d'Oscar Wilde.
Mettons des érables en prison.
Oscar Wilde.
Bien sûr, il faut toujours enfermer les...
BD a écrit ses plus belles pages en prison.
En garde à vue.
Bien sûr. En garde à vue.
Il n'a pas pu venir chercher son prix féminin. Il n'a toujours pas le droit de
quitter
la Turquie quand même.
Ce que je veux dire juste, c'est que si on oublie la Turquie, la dictature et tout,
d'ailleurs,
c'est un immense roman d'amour.
Jamais cité la Turquie.
C'est limpide, c'est très romantique, c'est goulayant, voluptueux. Et à un moment, il y a cette phrase vers la fin. Altan dit « L'amour est un cliché, la séparation est un cliché, le manque est un cliché. Les gens vivent de clichés, ils souffrent de clichés, ils meurent avec leurs clichés. » Eh bien, Madame Hayat, c'est 268 pages sans un seul cliché. Oui.
Eh bien, c'est un roman que Le Masque vous conseille de lire et qui est donc signé Ahmet Altan. Et c'est publié chez Actes Sud et ça s'appelle Madame Hayat. Et maintenant, une masse d'inédits, 1200 pages, Jean-Louis.
Oui.
Les écrits intimes...
Et pourtant, ce n'est qu'un digest. Hein.
Et en plus, il y a eu des coupes. De Patricia Highsmith, 1941-1995. Traduit par Bernard Turle, chapeau. Il paraît chez Calman Levy à l'occasion du centenaire de la naissance de la romancière américaine de Monsieur Ripley. Je rappelle certains, évidemment, de ses titres que vous connaissez tous, qui l'ont rendu célèbre et que le cinéma a popularisé. L'inconnu du Nord Express, adapté par Hitchcock. Plein soleil, par René Clément. Le cri du hibou, par Chabrol. Ou récemment, Carole, par Todd Haynes, et évidemment j'en oublie. Et c'est dans sa maison en Suisse tessinoise, où elle s'est éteinte en 1995, et au fond d'une armoire qu'on a retrouvée, ces milliers de pages de journal, où elle est fidèle à sa légende, hein, acrimonieuse, neurasthénique, misanthrope, d'une méchanceté mais sans limite. « Je n'aime pas beaucoup les gens », écrit-elle. « Défile ici sa vie, depuis son Texas natal jusqu'à la Suisse. Le succès de son premier roman, donc « L'inconnu du Nord Express ». Le deuxième, « Carole », roman lesbien publié sous pseudonyme de Claire Morgan. Son installation en France à la fin des années 60. Enfin la Suisse, où elle part pour fuir, je vous le rappelle, le fisc français. Tout cela noyé dans l'alcool, poivré, je le disais, de méchanceté. On y apprend notamment qu'elle a fait une psychanalyse pour la guérir de son homosexualité, qu'elle était capable d'antisémitisme. Il faut savoir ici que beaucoup de pages, il en reste encore, hein, ont été supprimées. Ça en dit long sur ce qu'elle était capable d'écrire. Et que sa part d'ombre, c'était, disait-elle elle-même, hein, sa cruauté. Énorme choc, évidemment, que ces écrits intimes de Patricia Highsmith, Frédéric.
Bah oui, c'est extraordinaire, parce que tu vois la hit girl noctambule des années 40, qui est une jeune midinette homosexuelle, mais un peu dans le placard, quoi. Que c'est pas quelque chose qu'on pouvait assumer à l'époque. Et puis, tu la vois évoluer, devenir un écrivain célèbre, raconter ses voyages, toute sa vie défile. Et puis, oui, ça se termine un peu comme une vieille sorcière antisémite et méchante, mais bon, c'est un journal du niveau de Léoto.
Détruite par l'alcool, quand même, hein, détruite par l'alcool.
Bah oui, oui, bien sûr, comme beaucoup d'écrivains de grand talent. Le parti pris éditorial, ça a été de mélanger des carnets, oui, qui étaient des notes littéraires avec des aphorismes, et les journaux intimes qui sont plus des listes de rendez-vous. Et peut-être, je suis pas sûr que ce soit la meilleure
idée.
Elle
n'avait laissé aucune consigne, hein, pour la publication, oui, de ces textes. Hein.
Et le fait de fusionner les aphorismes, qui sont tous quand même souvent très très brillants, avec les listes de rendez-vous, ou peut-être c'est un petit peu plus ennuyeux, c'est peut-être dommage. Mais j'ai noté des phrases quand même. « L'amour est quelque chose qu'on peut avoir dans la poche », en 41. « J'aime tant être amoureuse, cela m'ancre dans la terre et m'envoie jouer dans les nuages », 42. Et puis après, ça devient un petit peu plus tard, c'est « La chaleur du cognac rappelle beaucoup celle de l'amour maternel ». Là, on est un peu plus tard. Oui. Donc c'est ça que je trouve fascinant, c'est de voir défiler toute une trajectoire, toute une existence, quoi. Et puis avec toujours le brio des écrivains les plus désagréables.
Et avec beaucoup de gens connus, hein, qui apparaissent,
oui, bien sûr,
ici,
bien sûr,
ou là.
Moi, ça me fait penser, en fait, je me suis dit, si Sylvia Plath n'était pas morte, elle serait peut-être devenue Patricia Highsmith.
Pas aussi cruelle.
Sylvia Plath était quand même beaucoup plus empathique et sentimentale.
Mais là, elle l'est au début. Hein.
Oui, moi, j'ai été reculon, parce que pour toutes les raisons que tu as dit, et je suis tombée dans un chaudron de potions magiques très alcoolisées, parce que elle est tout ce que tu as dit, elle est méchante, mais elle est aussi extraordinairement piquante, intelligente, lucide. On dirait un peu du Dorothy Parker, je trouve, ouais, en tous les cas, quand elle est très jeune. Ouais. Et puis, il y a quelque chose de fascinant, c'est la vitalité de cette femme. Elle vit, mais avec une intensité, mais tout jusqu'au trognon. C'est en fait un livre qui est consacré à quatre choses, qui est écrire, lire, boire et faire l'amour. Mais alors, elle fait tout avec une sorte d'intensité incroyable. Elle met tout sur le même plan, d'ailleurs. Et ce qui est fascinant aussi, c'est le gouffre entre ses aspirations littéraires. Elle est très exigeante avec elle-même, avec des phrases folles. Parfois, elle dit « Hier, j'ai écrit 100 pages et une pièce de théâtre. Enfin, Patty, reprends-toi, tu es une paresseuse. » Enfin, elle est quand même très, très...
En même temps, elle doute aussi parfois. Moi, j'étais très frappé quand elle parle de Plein Soleil. Elle dit si le film, c'était bien, parce qu'il y avait Delon, mais le livre n'était pas à la hauteur du film.
Oui, elle n'est pas du tout sûre de son génie.
Elle est pas sûre
mais
de son
en revanche,
génie.
Elle est sûre de sa volonté d'écrire. Après, très souvent, c'est ça aussi qui la rend sympathique. Elle est une sorte de cœur d'artichaut. Elle est quand même un peu girouette.
Très perverse, quand même.
Oui, c'est...
oui, oui, mais enfin, elle tombe amoureuse. Alors après, là où elle est perverse, c'est qu'elle commence toujours. J'adore quand elle décrit les femmes avec qui elle est. Elle commence toujours par dire, elle est très belle, elle est géniale. Et après, la phrase d'après, elle les crucifie. Donc ça donne, c'est une belle bonne à rien. Moi, j'adore cette phrase. Mais elle est très amoureuse de cette belle bonne à rien. Après, je me demande dans quelle mesure on doit prendre ce journal pour argent comptant. Ah. Parce que, est-ce que c'est une,
question, ça.
C'est une vision fantasmée de son existence qu'elle nous donne,
hein. Enfin, encore voilà. Une fois, elle ne destinait pas à la publication.
Ouais.
Hein.
Donc, oui, c'est ça que je trouve intéressant.
Et moi,
je passe la parole à Vivian.
Ce que je trouve, c'est qu'on peut vraiment discuter la manière dont ce journal a été édité.
Mais oui, je suis d'accord.
On sent la volonté de fabriquer, à mon avis, hein, une icône lesbienne.
Un personnage.
Une icône lesbienne, même. On peut aller jusque-là. Et du coup, on va enlever ses propos antisémites, ses propos racistes. En revanche, on a gardé ses propos homophobes, il y en a, y compris d'ailleurs sur l'homosexualité féminine, pas simplement masculine, mais sur les homosexuels masculins, là, elle y va. Et donc, j'ai l'impression, oui, qu'on a essayé de fabriquer une icône lesbienne. C'est le but. Et il y a toute la postface du livre et ne parle que de ça, en fait, que de ses relations amoureuses, avec des choses très intéressantes. À un moment, le postfacier écrit le triangle et sa géométrie amoureuse préférée, une phrase que j'adore. Et c'est bien, on voit bien effectivement la perversité qu'il y a dans ses relations et qui la rend malheureuse, parce qu'il y a une haine de soi, un masochisme, une haine de soi qui fait aussi la force, il faut bien le dire, de ce journal.
Qui vient de sa mère, hein, parce que sa mère ne l'aimait pas.
Oui, c'est bien sûr. Après,
tout vient de là. C'était toutes celles qui n'ont pas été par leur mère, oui. Étaient aussi cruelles que Patricia et Smith. Le monde serait invivable.
Et un rapport à l'écriture, en revanche, que je trouve parfaitement heureux. C'est ça qui est étrange. Effectivement, il n'y a pas de souffrance d'écrire qu'on peut trouver chez certains écrivains. Là, c'est son travail. C'est clairement établi et elle y pense, elle y réfléchit, elle sait comment faire pour devenir un écrivain célèbre. Peut-être pas un grand écrivain, mais un écrivain célèbre.
Jean-Louis.
Cette édition, alors je pense tout ce que vous avez dit sur Patricia, je partage.
Tu l'appelles Patricia.
La jubilation de lecteur, pardon.
Tu l'appelles Patricia, toi.
Ah non, bah oui, enfin comme
Patty.
Non, tout le monde disait Pat.
Pat, elle est patente, j'adore. Mais cette édition est un pur scandale. Excusez-moi, c'est un scandale. Enlever des pages à un journal intime, mais c'est enlever de la vie à la vie. C'est enlever, c'est supprimer des jours, des semaines, des mois, des années qui ont été vécues.
J'ai trouvé le livre trop court, en réalité.
Ah ben, alors, là, du coup, oui. Franchement, et d'ailleurs, et en plus, c'est assumé par les éditeurs de ce livre de manière apparemment innocente, mais je cite, c'est écrit en toutes lettres, la question s'est posée de savoir s'il fallait indiquer les coupes. Ben, nous avons décidé de nous en passer pour éviter de soumettre le lecteur à une succession d'ellipses. Le lecteur devra toutefois garder à l'esprit que ce qui est imprimé dans ce volume ne représente qu'une mince fraction de la totalité des entrées contenues, etc. Oui. Et alors, un peu plus loin,
on dit, des erreurs contenues.
De temps à autre, nous avons jugé de notre devoir de refuser à Pat le droit de s'exprimer. Non, mais vous vous rendez compte? Imaginez qu'on applique la même méthode à, je ne sais pas, à un manuscrit de Céline, Dostoïevski ou Albert Camus, mais ce serait un scandale. Ou même à Thérèse de Lisieux. Tu vois, Thérèse de Lisieux.
Parfois, tu as des comparaisons très surprenantes.
C'est comme si on avait enlevé de l'histoire d'une âme le passage où elle ne croit plus en Dieu dans son agonie de tuberculeuse. Dieu la quitte. Moi, je c'est exactement la même chose.
Tu sais ce que j'aime chez toi, c'est la faculté de passer de Patricia et Smith à Thérèse de Lisieux.
Je suis sûr. Oui. C'est la même chose.
T'es le seul à faire ça.
Voilà. Comment justifier ces suppressions? On dit, on lui enlève des défauts. Elle avait des gros défauts. On le sait, elle a que ça, des défauts. Des défauts merveilleux, quoi. Elle les exprime d'une manière merveilleuse. Bon.
Alors, on a plutôt choisi entre ces défauts.
On efface le racisme. D'ailleurs, vous vous souvenez que sur le racisme, peut-être ce fameux roman que tu as cité, Carole, a été réédité dans les années 90 avec quelques changements. Négro est devenu Black. Je dirais, il y a un côté, c'est amusant, il y a un côté, Patricia Highsmith, quand elle revient, c'est jamais tout à fait la même. C'est du Highsmith corrigé, toujours.
Light.
Light, c'est du Highsmith, voilà. Et alors, la seule chose qu'on lui laisse, à part le racisme, ses défauts, sa méchanceté légendaire et tout, c'est son alcoolisme. Alors ça, c'est bien, l'alcoolisme. L'alcoolisme, pour fabriquer une légende d'écrivain, c'est pas mal. Donc, c'est vrai, de Verlaine à Blondin, on sait tout ça. Donc,
là, on est un des grands visiteurs, un des grands visiteurs que nous avons bien connu, Jean-Louis et moi, de Patricia Highsmith en Suisse tessinoise, qui allait régulièrement et qui aimait beaucoup aussi l'alcool. C'était notre ami Jean-François Josselin, qui allait pour le Nouvel Observateur rendre visite à Pat.
Oui, je pense.
Voilà, et ils buvaient ensemble beaucoup. Bon, ce sont les écrits intimes de Patricia Highsmith chez Calman Levy, 1941-1995. Et on termine avec un livre qui exalte un genre littéraire à part entière, qui est La visite au grand écrivain. Je vous rappelle le chapitre excellent qu'avait écrit Olivier Nora dans le livre Les lieux de mémoire de son oncle Pierre Nora, où il faisait effectivement de cette visite au grand écrivain un genre à part entière, et dont l'acte de fondation, selon moi en tout cas, peut-être qu'on pourra m'objecter, il y en a avant, c'est cette formidable visite, dont on ne sait jamais si elle a vraiment eu lieu, de Hérode Séchelles à Buffon dans son château de Montbard, et c'était en 1785. Et dans « Depuis que je vous ai lu, je vous admire », c'est le titre, hein, « Visite d'écrivain à leur maître », publié chez Fayard, Catherine Sauva fait le récit d'autres rencontres. C'est Casanova chez Voltaire, Verlaine chez Hugo, Fitzgerald chez Edith Wharton, le tout jeune Truman Capote, ça j'ai adoré ce passage, chez la Grande Colette, à Paris, Peter Handke chez René Char, Burroughs et Ginsberg chez Céline, avec chaque fois évidemment des bonheurs, des adoubements, mais aussi des fiascos, et il n'y a pas la rencontre de Josselin chez Patricia Highsmith. Jean-Louis.
J'ai beaucoup aimé, l'idée est belle, hein. C'est une idée merveilleuse, même si elle est totalement illusoire, parce qu'il n'y a jamais de transmission en littérature, ou alors, s'il y a une transmission, c'est par les œuvres et non pas par les rencontres. Mais je comprends qu'il y ait des rencontres.
Ça se discute, hein?
Je crois pas. enfin, ça se discute. Ça peut se discuter, mais pour des raisons qui ne sont pas bonnes.
Quand Modiano va chez Berle ou quand Morand va chez Proust,
oui.
Ça, c'est pas dans le livre. Hein.
Non, mais il y en a qui sont réussis. Mais si on voulait faire l'analyse de ce qui nous est proposé là, dans cette sorte d'anthologie, c'est pas une anthologie parce que tout n'y est pas, bien sûr. Disons, dans le musical, on parlerait de pot pourri. C'est un pot pourri des rencontres mémorables. Bon, très bien. Mais il n'y a pas l'analyse. C'est forcément toujours, c'est un catalogue de déceptions, quoi. Quand Valérie rencontre Huysmans, qu'est-ce qu'il rencontre?
C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Si. Mais des déceptions qui sont savoureuses, en tout cas pour nous, qui peuvent être excitantes aussi pour les visiteurs. Mais ce sont quand même toujours des déceptions.
Presque toujours.
Regarde, Valérie qui rencontre Huysmans. Oui, et qu'est-ce qu'il voit dans lui? Alors que Des Esseintes est son héros favori, il a lu 40 fois le bouquin, etc. Il rencontre un vieux fonctionnaire aigri, bougonnant, etc. Mais on pourrait multiplier. Burroughs, qui était sûrement très cher, avec Ginsberg, qui était sûrement encore plus cher.
Oui, ils vont voir Céline,
Ils vont voir Céline, qui ne leur dit rien du tout. Ils vont voir Beckett, qui a... Beckett,
de toute façon, il parlait jamais, donc
non,
à personne.
Il y a une chose assez amusante, c'est qu'au moment, où ils repartent, Beckett leur chante une petite chanson irlandaise parce que Ginsberg a dit, est-ce que Joyce, dont Beckett avait été le secrétaire, avait une belle voix? Il dit oui, et il chantait, et il se met à chanter. Mais c'est toujours
Tout le monde emmerdait Beckett avec Joyce.
Frédéric.
Ce qui est savoureux dans ce genre de pot-pourri ou florilège, ce sont les anecdotes, quoi. Par exemple, effectivement, la rencontre entre Truman Capote et Colette, où Colette demande à Capote « Qu'espérez-vous ?» et le jeune homme dit « Devenir adulte ». Et elle lui dit « Ah, ça, nous ne le serons jamais ».
Ouais, voilà.
Ou alors, effectivement, Ginsberg qui se retourne en partant de chez Céline et qui dit « On est très heureux d'avoir rencontré le plus grand écrivain français » et Lucette dit « Du monde !» Des trucs marrants comme ça. Ça m'a plu.
Non, le visiteur est toujours défait. Regardez Wilde. Alors, le pauvre Wilde, il va voir Hugo.
Jean-Louis,
Hugo s'endort.
L'émission va se terminer.
Hugo s'endort.
Oui.
Il va voir Verlaine. Verlaine est complètement bourré.
Oui.
Donc,
avec Walt Whitman, ça se passe très bien.
Oui.
Avec Walt Whitman, Wilde, c'est une des rares rencontres réussies. Non, Fitzgerald et Edith Wharton, ça n'a pas marché du tout. Voltaire et Casanova, ils étaient en compétition de mots d'esprit. Ça, ils ne se sont pas du tout appréciés. Il y a un truc un peu me too à un moment, c'est Goethe qui embrasse par surprise Bettina von Arnim, venue le rencontrer. Elle a galéré pour rencontrer Goethe. Elle est même devenue copine avec sa mère pour pouvoir le rencontrer. Et quand elle le voit, elle a 24 ans, lui il en a 60, et tout ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de sauter dessus.
Putain, me too.
Là, oui, oui, bah oui, oui, balance ton Goethe.
Il a bien fait de... Oui.
Olivia.
C'est très réjouissant. Mais parce que tu as raison de dire que... Elle n'en tire aucune leçon. Mais en revanche, je trouve que c'est un très grand livre de portraits d'écrivains.
Mais oui, mais et puis, c'est à l'infini, on pourrait multiplier par trois ce genre de...
Non, mais ne vous méprenez pas. Quand je dis que c'est un catalogue de déceptions, ce n'est pas le lecteur qui s'exprime en cas, c'est les déceptions des visiteurs, oui. C'est tout.
Mais parfois, d'ailleurs,
Rémi Morand chez Proust, il était...
Parfois, d'ailleurs, c'est le visiteur qui est décevant, mais parce que c'est aussi un catalogue de vanité.
Oui.
Et chacun veut...
Parce qu'on veut être adoubé. On veut être adoubé.
Les écrivains sont des groupies.
Et le plus terrible, c'est Fitzgerald et Wharton, parce que Fitzgerald essaye de faire le malin, il se jette aux pieds de Wharton. Donc Wharton, d'abord, elle consent un touchant, et la deuxième rencontre est tellement ratée qu'elle va finir par écrire dans son journal juste un mot, elle écrit « affreux ». Effectivement,
il y a des récidivistes.
Il y en a qui sont sympathiques. Souvent, ils n'ont rien à se dire.
Ouais, oui.
C'est Sagan qui est invité par Tennessee Williams et Carson McCullers.
Oui, mais en même temps, c'est un très joli chapitre avec mon meilleur souvenir. Hein.
J'adore, mais elle-même, elle dit en fait, on prenait le soleil, on allait se baigner, mais on
ne parlait
pas beaucoup.
Toute la journée au gin aussi.
Voilà, parce qu'elle est très étonnée. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi le matin, ils buvaient des grands verres d'eau. Et puis évidemment, elle va découvrir que c'est des grands verres de gin qu'ils prennent au petit déjeuner, qui explique peut-être qu'ils ne se parlaient pas beaucoup. Mais je trouve que c'est un livre. Au-delà de l'anecdotique, après,
non,
parfois aussi, ils se trompent entre eux. Il y a Laurence Durel qui lit pour la première fois Kerouac et qui dit « c'est très ringard, c'est embarrassant, on dirait un film d'Errol Flynn ».
Oui. Le plus visité, c'est Verlaine. Alors Verlaine,
à l'hôpital,
c'est un défilé. Verlaine, c'est une cabine de péage sur l'autoroute. C'est vraiment.
Oui, mais c'est en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de très enthousiasmant à tous ces écrivains qui vont se voir, qui s'invitent. Aujourd'hui, tu vois, je passe pas mes vacances avec toi,
encore.
Frédéric.
Non, mais ça,
tu m'invites pas en vacances.
Ça peut s'organiser,
Arnaud.
Il y a des rencontres qui sont vraiment étonnantes parce que soudainement, on est dans une autre. Enfin, on ne pensait pas à la temporalité de la littérature comme ça, ou même sa spatialité. Je pense à Calvino qui rencontre Hemingway, ça semble totalement bizarre et improbable.
Aussi improbable pourtant... que Capote chez Calette. Hein.
Oui, oui. Suzanne Sontag qui rencontre Thomas Mann en Californie. Elle va même le voir deux fois d'ailleurs. C'est tout à fait étonnant parce qu'on n'arrive pas à associer Suzanne Sontag avec Thomas Mann, c'est impossible. Et même Italo Calvino avec Hemingway, non, on voit pas, il n'y a pas de rapport stylistique. Et donc c'est ça le. Il y en a une extraordinaire, c'est Andersen et Dickens, où il va logé pendant 15 jours chez Dickens et l'autre n'en peut plus. Il faut juste qu'il se casse. C'est très, très drôle.
Le livre s'appelle « Depuis que je vous ai lu, je vous admire ». Titre un peu abusif, évidemment. Visite d'écrivains à leur maître. C'est publié chez Fayard et c'est signé Catherine Sauva. Avant de vous demander vos conseils, je vous rappelle, ce sera une des dernières fois presque, que comme chaque année dans le domaine du cinéma et pas des livres, je vous propose de voter pour le 32e prix des auditeurs du Masque et la Plume. Vous m'adressez, s'il vous plaît, sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr, à la page Réagir. Simplement, vous écrivez le film français et le film étranger que vous avez préféré au cours de l'année 2021, et cela jusqu'au 20 décembre, avec vos résultats qui seront fêtés en début d'année lors d'une émission spéciale. Les conseils, on va commencer avec Olivia.
Les carnets de bord de Sempé, publiés au cahier dessiné chez Buchet-Chastel. Pour la première fois, Sempé publie ses esquisses, son travail préparatoire à ses dessins. C'est juste à pleurer de beauté. Et en plus, il y a une préface de Modiano, qui est aussi à pleurer de beauté, qui explique que le travail de Sempé consiste non pas à ajouter, mais toujours à enlever, à presque inventer un dessin immatériel. Ce livre est inouï.
Et c'est chez
Buchet-Chastel.
Buchet-Chastel, le conseil d'Arnaud.
Alors, de Toulouse, La Rose, d'Oléans, derrière mesure révolutionnaire, chez Sans C'est ton cas, il n'y a pas que des polémistes d'extrême droite, il y a aussi des polémistes d'extrême gauche.
On les entend moins.
On les entend moins, ben oui. Et donc là, le mystérieux auteur qui signe Toulouse, La Rose, vient de sortir son nouveau livre, donc d'Oléans. Il écrit, c'est pas son premier livre, loin de là, hein. Il a écrit sur les situationnistes, sur Guy Debord. Et là, donc, il s'agit de son, ses cahiers de doléances, voilà. Et où, vous savez, un extrémiste un polémiste d'extrême droite vient de terminer un discours en disant vive la République et surtout vive la France. Eh bien, justement, là, Toulouse-Larose explique au contraire que la France a toujours été le boulet de la République pour deux raisons. Elle a toujours été antisémite, elle a toujours été aussi anglophobe. Et donc, voilà, il faut, lui, il dirait plutôt vive la République et tant pis pour la France. Et donc, voilà, c'est chez Sans, c'est ton cas, Toulouse-Larose, d'Oléans, dernière mesure révolutionnaire.
Mon conseil, c'est une découverte et c'est un choc, en tout cas pour moi, c'est la réédition aux éditions du Chemin de Fer, qui est une petite maison d'édition de la Nièvre, d'un roman paru en 67 chez Gallimard, qui s'appelle Renata n'importe quoi, de Catherine Guérard, que je ne connaissais pas, qui a totalement disparu ensuite. C'était son unique deuxième roman. À l'époque, d'ailleurs, Le Masque en avait dit le plus grand bien, Le Masque et la Plume, et qui constituait ce roman d'une phrase unique, du début à la fin, avec que des majuscules en guise de ponctuation. Et c'est l'histoire d'une domestique qui claque la porte de ses patrons et qui décide de devenir une libre. Et pendant 3 jours et 3 nuits, elle va errer dans Paris et perdre la raison jusqu'à un épilogue foudroyant que je ne vais pas raconter. On dirait du Genet, mais retouché par Beckett. Et c'est cette femme, encore une fois, que je découvre, Catherine Guérard, Renata n'importe quoi, aux petites éditions, mais remarquables, du Chemin de Fer. Le conseil de Frédéric.
J'ai voulu ajouter une autre rencontre réussie entre écrivains, c'est Paul Nizon et Frédéric Pajac, une conversation intitulée « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» aux éditions Noir sur Blanc. Paul Nizon, vous savez, c'est le plus grand écrivain suisse-allemand qui est en réalité parisien depuis 1977, 44 ans, qui vit rue Campagne Première, comme Yves Klein, Modigliani, ou comme l'endroit où Belmondo se fait flinguer dans Un bout de souffle. Et c'est vraiment un dialogue extraordinaire. Et Frédéric Pajac, c'est je pense, l'éditeur du livre dont tu parlais.
Absolument. Les cahiers dessinés.
Les cahiers dessinés, c'est lui qui dirige cette collection. Oui. C'est aussi un très grand écrivain, illustrateur.
Et grand dessinateur.
Oui, qui a inventé une forme vraiment
nouvelle.
Le roman
graphique grand format avant l'heure.
Oui, et très littéraire. Et donc les deux ont une conversation vraiment éblouissante. Je cite juste une chose, parce que avec dans ces temps de xénophobie, ce que dit Paul Nizon, je ne suis pas français, je suis parisien, comme Picasso, comme Giacometti, comme Peter Handke.
Le conseil de Jean-Louis pour finir.
Oui, on a parlé ce soir avec François-Henri Désérable d'un écrivain qui a été aussi un sportif professionnel de hockey sur glace. Ben, j'en ai un autre, pas hockeyeur, mais un autre champion professionnel du sport, Guillaume Martin, qui lui est un cycliste, qui s'est classé d'ailleurs 8e du dernier Tour de France, mais qui est aussi, dans le civil, si j'ose dire, un philosophe.
Il est philosophe et il court le Tour de France.
Absolument. Et il écrit de temps en temps, il écrit l'hiver, parce que l'hiver, on ne pédale moins. Et il a déjà publié des pièces de théâtre, il a publié un ouvrage sur Socrate. Et là, il publie La Société du peloton, c'est en fait une analyse en philosophe des rapports de l'individu à la société aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux. C'est tout à fait passionnant. Et c'est publié chez Grasset.
Il s'appelle Frédéric Martin.
Guillaume Martin.
Et il était vraiment 8e du dernier Tour de France.
Absolument. Il a été le meilleur Français du Tour.
Il y avait un joueur de hockey sur glace au programme, donc c'est cohérent.
Oui.
Bravo pour tous ces conseils très surprenants qui vont enrichir la
très suivi par
Père
l'Université
Noël.
De Nanterre, ses anciens profs qui sont...
Merci Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian, Jean-Louis Zine et Frédéric Becbédé pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir à la technique au Théâtre de l'Alliance Française, il y avait, et je les remercie, Cédric Chatelus, Julie Garraud, Nicolas Depagraf. Et la réalisation était assurée par Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, ce sera le jeudi 16 décembre à partir de 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail dans le 6e à Paris, pour 2 émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, On parlera de films. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.